Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est ce lundi, le dernier jour de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle en Ukraine. Le premier tour aura lieu le 31 mars prochain et le second, si besoin, trois semaines plus tard. Il y a de très nombreuses candidatures, même si certaines d'entre elles se détachent, dont celle de l'égérie de la Révolution Orange, Yulia Tymoshenko, et celle du président sortant, Petro Poroshenko. Le principal enjeu de cette élection, c'est le conflit avec les pro-russes de l'est du pays, avec la Russie elle-même en mer et en Crimée, annexée par Moscou, et alors que les Européens demandent à Kiev d'être un peu raisonnable dans cette confrontation aux portes de l'Union. Où va l'Ukraine? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Christine Dugoin-Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au think tank Cap Europe à l'université Sorbonne Paris 1. Et Alain Guillemol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Lacroix, auteur de Ukraine, le réveil d'une nation. C'est aux éditions Les Petits Matins en 2018. 90 candidatures, reçues par la commission électorale jusqu'ici. 28 validées. La société ukrainienne est-elle à ce point divisée, Christine Dugoin-Clément? Ou fracturée? Ou...
Alors, plus qu'une division, il faut voir aussi que... Traditionnellement, on va avoir tendance à dire qu'une pluralité de candidatures est un signe de processus démocratique qui s'accomplit. Donc de ce point de vue-là, ça pourrait être rassurant. Ce qui peut être rassurant aussi, c'est que ça complique énormément les pronostics, donc que l'on peut savoir que l'on va avoir quelque chose d'à peu près calé. Mais ce que vous disiez est vrai, la pluralité démontre aussi qu'il y a aussi une perte de confiance dans des figures un petit peu classiques que l'on pouvait avoir ou dans des partis traditionnels. Connu jusqu'alors. Donc c'est quelque chose d'assez complexe qui va être intéressant à suivre.
Alain Guillemol, est-ce que ça, il y a vraiment 90 courants de pensée actuellement en Ukraine ou...
Non, loin de ça. Il y a surtout, je pense, chez les électeurs ukrainiens, un désir de nouveauté. C'est-à-dire, ils sont un peu fatigués des figures qui sont là, qui occupent la scène politique depuis des années. Ils sont en attente de nouveauté. Et les gens qui se présentent le savent. On est là, on a une élection qui sera très ouverte finalement, parce que même s'il y a des figures qui sont très installées, il y a ce désir de nouveauté et donc des personnalités nouvelles s'engouffrent dans la brèche et s'installent et s'imposent sur la scène.
Alors de beaucoup de candidats, un désir de nouveauté, mais il y a quand même des favoris. Le président sortant Petro Poroshenko est candidat, ce n'est pas une surprise. Est-ce que c'est ce qu'il revendique ou c'est ce qu'il essaye de faire apparaître? Est-ce qu'il est vraiment le plus pro-occidental d'entre tous, Christine Dugoin-Clément?
Alors, Petro Poroshenko est dans une position qui est assez délicate puisque sa position dans les sondages n'est pas bonne. Elle est extrêmement faible. Son bilan est fortement mitigé. Pour ceux qui s'en souviennent, ses arguments de campagne en 2014 étaient la fin de la guerre dans le Donbass très rapide, ce qui est pas du tout le cas puisqu'elle est encore en cours, et le retour de la Crimée dans le giron ukrainien. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. À côté de ça, vous parliez de Yulia Tymoshenko, qui prend une position pro-occidentale, malgré tout, avec des relents de populisme assez forts, que l'on va pouvoir retrouver. Vous avez après d'autres outsiders qui vont venir avoir des positions qui vont être effectivement pro-européens, et puis d'autres anciens que vous n'avez pas cités, qui sont un petit peu plus derrière, mais qui sont des figures traditionnelles, beaucoup plus pro-russes, à l'encontre.
Alors, dans ces études d'opinion, Alain Guillemol, Petro Poroshenko est à la peine. Pourquoi? C'est parce que son programme n'a pas été réalisé? Qu'est-ce qu'on lui reproche dans l'opinion ukrainienne?
Bah, c'est-à-dire, je pense que les Ukrainiens ont fait la révolution il y a maintenant 5 ans. Ils étaient à ce moment-là en attente de résultats rapides. Ils voulaient voir des changements. Et ces changements tardent à venir. C'est-à-dire, Petro Poroshenko a surtout été l'homme qui a reconstitué l'autorité de l'État, puisque l'Ukraine était un peu déliquescente après la révolution, et puis qui a stabilisé l'économie. Donc ça, de ce point de vue-là, il a amené cette stabilité. Mais les Ukrainiens ne voient pas des résultats immédiats. Bon, pourtant, il faut bien dire que l'Ukraine a connu quand même ces trois dernières années une certaine croissance, que petit à petit, toute l'économie ukrainienne se réorganise et se réoriente vers l'Europe. Et ça, la majorité des Ukrainiens, c'est ce qu'ils demandent. Donc, quelque part, les changements arrivent, mais de manière lente, graduelle. Et donc, ça crée de l'insatisfaction et de la frustration.
Il y a un problème, c'est ce que j'ai pu comprendre en préparant cette émission, est-ce qu'il y a un problème de lutte contre la corruption avec Petro Poroshenko, Christine Dugan-Clément ?
Alors oui, c'est quelque chose qui lui est reproché, c'est-à-dire que la lutte contre la corruption qui était très fortement réclamée par les Ukrainiens en règle générale et les acteurs du Maïdan n'a pas donné les résultats escomptés. Et au-delà, il y a une dernière affaire assez récente qui vient un petit peu entacher l'image du président, à savoir le limogeage de monsieur Alassania, qui était à la tête de Souspline Telebachenia, qui est la télévision publique, si vous voulez. Et de ce fait, certains accusent le président Poroshenko de vouloir utiliser les médias en restreignant la liberté d'expression, ce qui a donné d'ailleurs récemment la naissance d'un groupe de protecteurs de la liberté d'expression fait de beaucoup de journalistes. Donc ce sont des choses qui lui sont reprochées de manière relativement régulière.
Il y a un soupçon de censure sur l'information.
Voilà, ce sont des choses qui lui sont reprochées de manière assez régulière avec ces affaires de corruption qui font que ça complique un petit peu sa tâche en tant que candidat à sa propre succession.
Qu'est-ce qu'on lui reproche en matière de lutte contre la corruption ? Il y a des éléments de favoritisme, c'est un milliardaire, un homme d'affaires, donc il a de nombreux amis, qui favorise.
Oui, tout à fait. Plus fondamentalement, enfin, c'est un homme qui, avant d'être président de l'Ukraine, il était un grand homme d'affaires, un milliardaire ayant des intérêts dans les usines de chocolat, mais aussi dans les médias, dans les chantiers navals. Enfin, il a des... il est un des hommes les plus riches d'Ukraine et il appartient à ce clan, on peut dire, des oligarques qui sont les grands hommes d'affaires ukrainiens qui ont un certain contrôle sur la politique du pays. Et depuis qu'il est président, il n'est jamais allé contre les intérêts de ce groupe d'oligarques. Il s'est plutôt posé en espèce d'arbitre entre leurs différents intérêts, tout en ayant une politique de stabilisation de l'économie, de réorientation de l'économie du pays vers l'Europe, et puis de renforcement des capacités de défense du pays. Enfin, il a plutôt été l'homme de la stabilisation dans une période assez compliquée.
Christine Dugan-Clément, je vois avoir un petit peu envie de réagir là-dessus.
Oui, alors il a eu quand même des actions envers un oligarque particulièrement qui ne l'ont pas mis en odeur de sainteté, c'est par rapport à Igor Kolomoïski, notamment via la nationalisation de Privat Bank. Ce qui lui a valu quelques fortes inimitiés avec donc cet homme puissant de l'Est qui se retrouve être un soutien de Yulia Tymoshenko que vous citiez tout à l'heure. Puisque le problème, c'est ce qui fatigue aussi probablement la population, c'est que les oligarques dont parlait Alain ont une part assez forte dans notamment le soutien à soit certains partis politiques, soit certains hommes politiques. Donc cela peut parfois pouvoir se ressentir, notamment sur des questions de financement des campagnes.
Le rôle de la nouvelle Église orthodoxe indépendante d'Ukraine, apparemment dans sa... Son autocéphalie, c'est comme ça qu'on appelle
ça.
Petro Poroshenko a joué un rôle de cheville ouvrière assez important. Il est allé plusieurs fois à Constantinople pour essayer de faire reconnaître l'indépendance de l'Église d'Ukraine orthodoxe par rapport à Moscou. C'est une manœuvre politique en vue de la campagne électorale pour vous, Alain Guimol?
Oh ben clairement oui, je pense dans l'esprit du président, c'est un argument qu'il s'est donné pour essayer de justifier sa position et sa deuxième candidature. Mais en même temps, c'est quand même un symbole assez fort. Enfin, il faut pas le lire uniquement à l'aune des calculs politiques, parce que comment dire, c'est quelque chose qui montre comment l'Ukraine ces cinq dernières années a changé. Hein. Je disais bon, elle s'est réorientée vers l'Europe, mais c'est aussi l'Ukraine ces cinq dernières années, c'est beaucoup détaché de la Russie, en fait, a coupé tous les liens qui existaient, les liens économiques, j'en ai parlé, mais aussi les liens culturels et les liens spirituels, puisque avec sous l'action du président est née cette église nationale. Hein, vous savez que chez les orthodoxes, les églises s'organisent sur un mode national, et donc cette église s'est détachée de l'église russe pour obtenir une reconnaissance de la part de Constantinople, et donc a obtenu l'autocéphalie, c'est l'équivalent de cette autonomie. et ça montre à quel point l'Ukraine a coupé tous ces liens qu'il a rattachés à la Russie.
Yulia Tymoshenko, c'est une sorte d'égérie de la révolution ukrainienne, de la révolution orange d'abord, et puis qui a été au gouvernement ensuite. Quelles sont ses chances, quel est son positionnement dans cette course électorale, Christine Dugoin-Clément?
Alors, Yulia Tymoshenko, elle a un avantage énorme sur les autres candidats, c'est qu'elle est à la tête d'un parti historique qui a 20 ans derrière elle maintenant et qui, de facto, bénéficie d'un maillage territorial important, d'une structure que les autres partis peinent à avoir quand ils commencent à en avoir.
Ça veut dire qu'elle est implantée localement de manière importante.
Elle a une implantation locale qui est assez forte, elle a un bassin de population de votants, même s'il est relativement faible, mais qui est assez stable, et elle a une reprise régionale.
Qui est répartie dans tout le pays, c'est ce que...
Elle a un maillage, oui. C'est le plus gros maillage en termes de partis politiques. Donc ça lui permet d'avoir une reprise qui soit assez intéressante. Et c'est important aussi pour une chose, c'est parce que être président d'Ukraine est une chose. Maintenant, pouvoir avoir la maîtrise de la Rada et donc de la politique gouvernementale ensuite en est une autre. Donc il faudra, pour celui qui sera président et qui voudra pouvoir gouverner, réussir à avoir la majorité régulière à la Rada. Pour cela, ça voudra dire avoir le maximum de députés sur les prochaines élections législative de l'automne.
Oui, la Rada, c'est l'Assemblée. Yulia Tymoshenko, on lui prête une vision, enfin, ou des paroles un petit peu populistes. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Guimol?
Je crois que le populisme, c'est une maladie qui touche
largement partagé.
Qui touche aujourd'hui un peu toutes les démocraties. Mais oui, c'est vrai. Ce que je voulais vous dire, c'est surtout que, enfin, il faut pas avoir une lecture de la politique ukrainienne en voyant des courants idéologiques qui s'affrontent. En fait, c'est des personnalités. Yulia Tymoshenko travaille pour elle-même et pour sa réussite, tout comme le président actuel travaille aussi pour sa propre ambition de rester au pouvoir. Et c'est le cas de la plupart des candidats. Donc on a des écuries qui s'affrontent avec des personnalités. Finalement, les questions idéologiques ne sont pas, malheureusement, très importantes. Enfin, les clivages ne sont pas très profonds. La majorité de l'Ukraine aujourd'hui est donc pro-européenne, d'autant plus que les territoires qui ont été perdus par l'Ukraine, à la fois la Crimée, mais aussi les territoires du Donbass qui ne sont plus de fait contrôlés par l'Ukraine, étaient peuplés de gens qui étaient plus orientés vers la Russie. Et donc, on peut dire le barycentre politique du pays s'est déplacé vers l'ouest, très sérieusement.
Le contexte électoral, le fait qu'il y ait des petites phrases assez nationalistes de chaque côté, est-ce que ça peut enflammer le conflit avec la Russie? C'est ce qu'en fait disait Vladimir Poutine au moment de la confrontation du détroit de Kerch, et quand Petro Poroshenko avait déclaré l'état d'urgence, il l'avait accusé de faire de l'électoralisme, tout simplement. Est-ce que la campagne peut faire durcir le conflit avec la Russie, Christine Dugoin-Clément?
Alors, pendant les incidents...
Est-ce que ça peut pousser, par exemple, Petro Poroshenko à aller plus loin dans la confrontation?
Pour l'instant, ça serait relativement compliqué d'aller plus loin parce qu'ils vont avoir énormément de choses à gérer, y compris la propre campagne qui va se dérouler et qui risque d'être parfois un petit peu ordurière en essayant de ressortir les dossiers des uns et des autres, notamment sur des problématiques de corruption. Après, pour revenir sur justement les accusations de la Russie plus largement sur le positionnement du président Poroshenko lorsque la mer d'Azov a connu les événements que nous savons, le président Poroshenko se trouvait dans une position où il était pile je gagne et face tu perds. C'est-à-dire que soit il ne faisait rien, il restait très passif et on lui aurait reproché cette passivité de ne pas faire, soit il essayait de marquer les choses en disant ce n'est pas normal, on a une position militaire, quitte à savoir qu'elle était potentiellement difficilement tenable, notamment d'un point de vue de flotte, et on lui reprochait d'être sur du nationalisme. Donc il était dans quelque chose assez délicat, ma foi, à manier, d'un côté comme de l'autre. Par ailleurs, il est assez intéressant que la Russie lui reproche ce que le Vladimir lui-même parfois a fait, c'est-à-dire d'agiter le treillis comme étant un drapeau de ralliement, pour essayer de pouvoir catalyser un certain patriotisme et un nationalisme pour fédérer une population l'information qui avait parfois tendance à aller sur des points de vue différents.
Alors, on a parlé des deux candidats, disons, institutionnels, les plus connus. Il y en a un troisième qui, apparemment, rivalise et même est en tête dans les sondages. Qui est Volodymyr Zelensky, Alain Guimol?
Bah, écoutez, c'est un peu Mister Nobody, hein, parce que personne ne le connaît. En fait, c'est un artiste, quelqu'un qui joue dans une sitcom, dans laquelle d'ailleurs il joue le rôle d'un président. Une sitcom qui est assez populaire et ça l'a rendu tellement populaire que il s'est mis en tête de se présenter pour de bon et que effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure, il incarne un peu la nouveauté quoi. Et donc tout d'un coup, il attire à lui toute la lumière. Les hypothèses circulent de toutes sortes pour savoir qui est derrière lui, quels intérêts, etc. Je crois qu'il bénéficie aussi des circonstances et donc du fait de cette envie de figure nouvelle dans la politique ukrainienne.
Est-ce qu'on pourrait, alors je sais que c'est très hasardeux de faire des comparaisons avec d'autres pays, est-ce qu'on pourrait imaginer un risque populiste ou anti-système comme avec le mouvement 5 étoiles en Italie, Christine Dugoin-Clément? Ça se compare avec Beppe Grillo ou...
Comparaison n'est pas raison et par ailleurs les situations me semblent éminemment différentes. Faut pas oublier qu'on est sur un pays qui, comme le disait Alain tout à l'heure, a fait sa révolution et a restructuré beaucoup de choses, son état, son économie, qui est à l'heure actuelle encore en guerre, donc qui a tout l'effort de guerre à maintenir. Donc on est sur des postures différentes. Par ailleurs, on est sur un pays qui, même si l'économie est en train de se restructurer, a besoin de l'Occident et notamment du soutien du FMI. Ça fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui rendent des postures complètement anti-système et anti-Ouest, etc., difficilement soutenables, ne serait-ce que d'un simple point de vue économique. Ça, c'est d'un premier point. Et puis, qu'il serait très probablement difficile de faire accepter ce revirement à la population.
Le sentiment pro-russe, vous disiez que le barycentre s'est déplacé, Alain Guimol, du côté occidental. Est-ce que le sentiment pro-russe existe encore dans la partie Ouest de l'Ukraine ou est-ce que ça a complètement disparu?
Je crois que ça a beaucoup reculé, enfin, parce que il faut se rendre compte de ce qu'ont subi les Ukrainiens, une partie de leur territoire. D'abord, la Crimée leur a été enlevée. Et d'une manière assez brutale, et puis ça a été très mal vécu de la part des Ukrainiens comme une espèce de forme de trahison. Enfin, il faut se rendre compte que la Russie est quand même le pays qui était le garant de la sécurité de l'Ukraine. Ils avaient signé un mémorandum demandant aux Ukrainiens de rendre les armes nucléaires dont l'Ukraine avait hérité après la fin de l'Union soviétique, en disant « Vous nous rendez ces armes et nous portons garant de la sécurité de vos frontières. » Donc de vos frontières, y compris de la Crimée. Et puis voilà, 20 ans après, les Russes qui envahissent la Crimée. Donc ça a été très mal vécu par les Ukrainiens. Et puis ensuite, après, ils ont fait face à cette guerre hybride, c'est-à-dire cette guerre masquée par les mains des autres, cette guerre de l'information aussi qui se mène sur les réseaux sociaux. Il faut voir ce que les médias russes disent des Ukrainiens. Enfin, il faut voir comment ils parlent du pouvoir qui s'est installé à Kiev comme un état criminel, limite nazi. Enfin, c'est vraiment donc et ça les Ukrainiens le comprennent, le voient. Et donc aujourd'hui, il est assez difficile pour eux de se dire, demain, on va pouvoir s'entendre avec les Russes, vous voyez.
Ça veut dire qu'il n'y a pas, dans les 90 candidats qui se sont enregistrés, qui ont déposé leur candidature, il n'y a pas, Christine Dugoin-Clément, de candidat de Moscou actuellement?
Alors, on a tout de même un candidat qui est issu de ce qu'était le PRU, le Parti des Régions, donc de l'ancien président destitué, qui est Boyko. Alors, un point qui est quand même assez significatif de la perte de vitesse, même si elle reste présente, hein, donc d'une population qui serait pro-russe, c'est que il y avait plusieurs candidats initialement au sein du bloc d'opposition issu du PRU, à savoir messieurs Dobkin et Rabinovitch, ainsi que Boyko. Et le choix a été fait, notamment par leur soutien, que un seul candidat partent pour ne pas risquer une dissolution du peu de voix déjà qu'il risquait de pouvoir collecter.
Merci Christine Dugoin-Clément, merci à vous également Alain Guimol d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Participez également au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.